l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà dans les studios fort accueillants de FM+, et accueillants d'autant plus que là, nous allons évoquer la solidarité internationale avec une actualité brûlante et douloureuse. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de me retrouver avec
Michel
Collomb. Ouais. Voilà, je suis ravie. Michel, on est là tous les deux aujourd'hui. Donc, ouais. Voilà. C'est le co-animateur de cette émission. Et Michel a été évidemment très intéressé parce que nous allons évoquer une situation très, très douloureuse et très d'actualité, qui est la situation en Iran, où on sait bien qu'à la suite de grandes manifestations contre le régime des Mollahs, pour ne pas les citer, régime islamique des Mollahs, y a eu des centaines de milliers de morts. Enfin, je pense que mon invité vous précisera le nombre, je ne m'en risquerai pas, mais on sait qu'il y a eu énormément de morts, qu'il y a eu vraiment un massacre terrible qui a été fait. Et depuis, évidemment, les Iraniens sont en guerre contre un régime qu'ils ne reconnaissent pas. D'ailleurs, ils disent tous on est iranien, mais on n'est pas du régime islamique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoquer tout ça. Et je vais laisser la parole à Mitra. Mitra Jalil Valenzuela, qui est mon invité du jour, notre invité du jour, Michel.
Notre invité, oui.
Voilà. Et je ne sais pas si tu voulais commencer, tu voulais dire quelque chose, toi, Michel, par rapport à Mitra, avant qu'on lui donne la parole.
Non, mais on est vraiment effaré par le nombre de victimes qu'il y a eu à l'occasion de cette répression-là. Et voilà. Sans doute, ce n'est pas complètement représentatif de la situation idéologique, religieuse en Iran, mais c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Quoi.
Voilà, très inquiétant. Et on est avec solidarité, nous sommes avec nos amis iraniens. Et donc, Mitra, je te dis bonjour, je te salue et je salue ton courage.
Bonjour.
Bonjour.
D'abord, je vous remercie tous les deux de m'avoir invité, d'en parler d'Iran, parce que bon, vous le voyez bien, le média en France, on n'en parle pas beaucoup, on donne pas l'importance qui mérite cet événement, de ne pas dire la révolution, parce que cette fois-ci, c'est la révolution. Même si jusqu'à maintenant, le mouvement Femme, Vie, Liberté, c'était un mouvement, ou le mouvement de 2019, c'était un mouvement. Là, cette fois-ci, c'est la révolution. Mais on n'en parle pas assez, on n'est pas assez soutenu au milieu international. Et là, ça commence vraiment à faire... l'importance de l'affaire est tellement énorme qu'il faudrait qu'on en parle tous les jours. Je suis tous les jours de lundi au vendredi, de 5h de l'après-midi jusqu'à 6h30, en face cinéma Gaumont avec des compatriotes, des étudiants, et je vois encore des gens qui arrivent qui ne sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe. Ce qui est, je trouve, pour moi, c'est une mauvaise circulation des infos. On ne choisit pas ce qu'il faut dire et l'importance des infos. Et bien entendu, comme vous le savez, depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022, les mouvements Femmes, Vie, Liberté est né, pour mon français, est né, et depuis ce moment-là, bon, tout au début, c'était les femmes qui sont parties dans la rue et ils ont dit qu'assez pour choisir notre même vestiment, il faudra que vous choisissiez, on ne vous permet pas. On en a marre et on voudrait, c'est notre vie, c'est notre corps, on voudrait prendre la décision nous-mêmes et le choix nous revient. Très vite, on a été suivis par nos frères, nos pères, nos amis, les hommes iraniens ils se sont relevés pour porter le soutien aux femmes, ce qui est vraiment peut-être inhabituel dans les pays musulmans, mais nous, en Iran, notre culture, il y a énormément de respect pour les femmes et les hommes sont toujours derrière les femmes pour les soutenir. C'est vraiment remarquable parce que le mouvement est devenu, pour les femmes et pour les hommes, c'était un combat de tous les Iraniens. Petit à petit, vu la situation en Iran, qui est au niveau politique, l'embargo, la guerre, alors bien entendu, c'est la façon de vivre pour le régime islamique terroriste d'Iran, c'est ça, qui se met en guerre avec les autres pays. Là, comme nous, les Iraniens, on est très nationalistes et on tient beaucoup à notre terre, dès qu'il y a une guerre, on dit, bon, on reste, parce que c'est notre terre qui est en train de diviser. Alors le régime le sait très bien, il abuse de cette culture iranienne, parce que c'est notre culture à nous, et ce n'est pas eux qui nous ont apporté. Et bien entendu, depuis, ça fait 47 ans qu'on est en guerre avec le monde entier, on est en embargo avec le monde entier.
Pardon, et ce n'est pas vous, ce n'est pas les Iraniens, c'est la République islamique.
Ah non, islamique. Ah oui, oui, alors c'est la République islamique. Oui, malheureusement, je dis nous, c'est la République islamique terroriste d'Iran et qui fait subir tous ces malheurs à eux. Peuple iranien qui n'ont rien à voir avec ce régime. Alors, au niveau même environnement, on avait des gros barrages, ils sont tous secs, à sec. Et l'agriculture ne fonctionne plus. Il n'y a rien qui fonctionne en Iran. Et là, ce mouvement, ça a permis, depuis 2022, les gens, ils sont dans la rue et ils se battent. Et nous, les diasporas iraniennes à l'étranger aussi, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, on soutient notre peuple et on fait pas mal de manifestations. Malheureusement, on rencontre énormément de difficultés par rapport au gouvernement d'Iran. Ils ont, on dit, un lobby, je pense, énorme au centre des gouvernements des autres pays. Et vous savez très bien, le 19 janvier 2026, enfin, après 3 ans de bataille, 3-4 ans depuis 2022, on s'est bataillé pour que le passeur d'Iran, le gardien de la République islamique, soit considéré comme organisme terroriste
oui, et dans l'Union européenne, entre autres.
La France insistait beaucoup que ça ne soit pas ça. Et finalement, comme tous les pays européens ont adhéré à cette idée, finalement, la France aussi, dernière minute, a signé, il a accepté que gardien de la République, c'est un organisme terroriste. C'était une joie pour nous parce que quand même, on a avancé un pas. Mais depuis 28 décembre, les gens... Et ils sont le pouvoir d'achat a moins et c'est arrivé à ce niveau là. Le dollar a pris un niveau très très haut en Iran. En Iran, l'économie tourne sur dollars malheureusement. Et là, ça, les gens sont dans la rue. Il y a non seulement injustice sociale, non seulement injustice politique, il y a injustice économique aussi, qui ajoute. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va dans ce pays.
C'est ce qui justifie justement l'appellation que vous avez utilisée de
révolution.
La révolution.
Révolution. Cette fois-ci, c'est la révolution. Les gens, ils ont dit, ils demandent de les aider, mais ils ont dit, on ne rentre plus à la maison. On se bat, coûte qui coûte, on va jusqu'au bout. Vous savez très bien, ça a été dit, redit, je le redis, Le 8 et le 9 janvier, l'État d'Iran a coupé l'Internet complètement, a coupé l'électricité. En 2 jours, ils ont massacré 30 000 jeunes en Iran. C'est un chiffre qui était sorti des Nations Unies, qu'ils ont sorti ce chiffre-là. Et nous, d'après les chiffres qu'on a, depuis 28 décembre, il y a entre 80 000 et 100 000, selon les centres d'info. Ils ont été attaqués, ils ont été massacrés en Iran. C'est une situation urgente. C'est une non-assistance à la personne en danger. On demande tous, que les gens en Iran, que nous, le diaspora, on demande une... En tout cas, majoritairement pour nous, on demande une intervention militaire pour, c'est pas pour l'ingérence, c'est pour tuer les membres de ce gouvernement et de le faire sortir, surtout de leur faire sortir de notre pays. On ne veut plus de ce cadeau empoisonné qui nous a été imposé par Monsieur Giscard d'Estaing. J'y tiens là-dessus pour le dire. C'est pas pour faire amalgame ou quoi que ce soit. C'est Monsieur Giscard d'Estaing qui a donné droit d'asile à Khomeini, qui l'a imposé Khomeini avec l'aide des États-Unis. Ils nous ont imposé cette personnage. Et là, on demande gentiment, venez prendre votre cadeau empoisonné et libérez-nous, parce que le peuple est sans armes, les mains vides, contre 5 organismes armés jusqu'à dents. C'est l'armée d'Iran, l'armée nationale, la police nationale, les pastarans, c'est l'armée des mollahs, les basijis, la police des mollahs, et tous les missionnaires qu'ils ont fait rentrer de l'Irak, de Liban, de la Syrie et de tous ces organismes, Hezbollah. Bien entendu, leur survie, c'est l'État islamique d'Iran, parce que c'est lui qui est premier subventionneur de tous ces organismes terroristes. Et sachez qu'en nous débarrassant de Jomhouri Islami, République islamique meurtrier, c'est vous, l'Europe, qui vous allez vous débarrasser de tous ces attentats qui se font chez vous. C'est tout le pays aux alentours de nous qui vont se débarrasser de tous les terrorismes aux alentours, ne serait-ce que les Kurdes aussi qui sont contre les Houthis qui sont les terroristes sunnites. Nous, on est les terroristes chiites. Quand je dis, c'est République islamique terroriste d'Iran.
Ouais, c'est sûr que c'est. Alors c'est bien, les rappels historiques sont importants. Notamment, justement, il y a eu une excellente conférence l'autre jour par un chercheur à l'université qui a traité de ça.
Monsieur Clément Terme,
qui était remarquable, qui nous a éclairé et qui nous a expliqué aussi que finalement cette République des Mollahs, en fait les Mollahs, la seule chose qui les intéresse, c'est pas le développement du pays, c'est pas le côté social, c'est pas le côté sanitaire, c'est pas le côté alimentaire. Eux, c'est le pouvoir religieux essentiellement. Et comme Mitra vient de l'expliquer, ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui s'accaparent toutes les richesses, pratiquement. Avec quelques personnes autour qui effectivement bénéficient, mais c'est pas la majorité, et qu'actuellement même des gens qui étaient plutôt du côté religieux, etc., commencent à vraiment à beaucoup se révolter aussi. Donc c'est bien un signe que vraiment, comme tu disais tout à l'heure, on est bien dans une révolution, quoi.
C'est une révolution. Alors, on a eu pas mal d'opposition, bien entendu. Vous avez peut-être entendu à l'étranger, je vous parle. En Iran, ils sont tous en prison, les pauvres. Mais à l'étranger, pas mal d'opposition. Bien entendu, au départ, il y en avait. Ils se sont réunis ensemble. Après, ils sont partis. La seule personne qui a resté, qui a le TOEF, qui a quand même une éducation politique, se résout par la vie. Alors, il y a des opinions...
Qui est le fils ?
L'office de Shah d'Iran.
Qui avait été chassé à l'époque.
Bien entendu... Oui, c'est le fils. Alors, bien entendu, tout le monde dit oui, mais son père, il était dictateur. Oui, son père était dictateur. À son époque, durant son règne, il a tué, d'après le monsieur, monsieur Clément Terme, il a dit 6 à 7 000 prisonniers politiques. C'est bien loin de 30 000, de deux jours de la République islamique. Ouais. Je ne parle pas de 47 années, tout ce qu'ils ont fait, les massacres qu'ils ont fait.
Oui, parmi exactement. La population. Ça aussi, on n'en parle jamais de ça.
On n'en parle jamais de ça. Et il disait, Reza Pahlavi, à l'époque, il avait 17 ans. Il n'avait pas le sang sur la main. Et lui, il le dira. Il a fait une charte de passation et il a dit, il est là pour aider les Iraniens, pour instaurer une élection libre, démocratique, pour qu'on on puisse avoir notre gouvernement démocratique, laïque. C'est ce qu'on veut tous. Bien entendu, c'est une personne qu'on peut compter là-dessus parce que c'est quelqu'un qui a un charisme et tous les pays européens, occidentaux, ils le connaissent. Et c'est la meilleure personne qui pourrait nous représenter. Et bien entendu, une fois qu'on arrive à sortir les mollahs de notre pays, ça sera le moment d'élection. Et c'est là que tous ces leaders qui sont en prison, ils vont sortir, ils vont créer, il faut du temps, bien entendu, mais ils vont créer leur parti. Chacun pourrait présenter son programme. Et là, par une élection libre, les jeunes, ils vont choisir la personne ou le groupe qui va les gouverner.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'entends, je viens quelquefois sur la comédie, d'ailleurs je vous invite tous à y aller, c'est tous les soirs de 17h à 19h hein, et il y a les photos d'une partie, ça change tous les jours. Et c'est vrai que beaucoup de Français ne comprennent pas trop ça, cette histoire du retour du chat. D'abord c'est pas le chat, c'est son fils. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est ce que tu viens de nous expliquer, il y a énormément de prisonniers politiques. S'ils sont pas tués, ils sont en prison. Donc, dans l'immédiat, c'est vrai que de toute façon, faire consensus, c'est une figure effectivement emblématique qui pourrait faire consensus en mettant de côté tout le reste et en s'engageant. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs par la vie. Il s'est engagé à participer simplement à une transition.
Exactement. Voilà. Alors, moi, j'entends toujours, c'est vous, les diasporas, qui vous dites ça. Non, nous, on est porte-parole de notre peuple. On est en contact avec notre peuple. On entendre que dans les révolutions, dans les rues, ils crient le nom de Reza Pahlavi, ils disent que Khamenei, on te vire d'Iran, Pahlavi, on te ramène en Iran. Bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est comme partout, il y a des gens pour et des gens contre. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas 100% des gens qui sont pour Reza Pahlavi ou 100% qui sont contre. Je suis absolument incapable de vous donner le pourcentage, même si quelqu'un vient dire c'est 30, 40, 50, on ne sait pas d'où ils ont fait sortir ce pourcentage. Nous, on regarde les manifestations dans toutes les villes, qu'est-ce qu'ils disent les gens. Et d'ailleurs, on a vu M. Reza Pahlavi, il a fait un appel aux gens pour samedi dernier, 14 février, le jour de l'amour. Et sachez que fête de l'amour, c'est une fête perse, Espan Mazdegar. Et ça, c'est 14 février. Il a fait un appel. Alors, trois villes importantes, il a précisé. Une Munich en Allemagne pour tous les Européens. Une Toronto et une Los Angeles. Bien entendu, tout le monde n'a pas pu y aller. Dans des autres grandes villes comme Londres, ailleurs aussi dans le monde entier, les jeunes, ils se sont rassemblés. Mais sachez que le nombre iranien présent à Munich, c'est la police qui le dit.
Oui.
Vous savez que quand ils donnent une chiffre, c'est des chiffres plus exacts que toutes les médias. 250 000 Iraniens, ils étaient à Munich. 350 000 à Toronto et 530 000 à Los Angeles. Et là, c'est seulement ces trois villes que Reza Pahlavi a donné appel pour y aller. Dans les autres villes aussi, les gens qui ne pouvaient pas aller, ils se sont réunis et ils sont allés faire la pub. Et c'est la pub. Ils ont fait ils étaient porte-parole des Iraniens. Ils ont fait les manifestations. Et sachez que dans un pays africain, je ne savais même pas que les jeunes existent, des Iraniens, ils sont là. Je crois que c'était
Guinée.
Ou en je ne suis pas, c'est ouais. Ça, parce que nous, en Farsi, on l'appelle Qana. Mm. Alors, est-ce que c'est là? Mm. Et à Qana, il y a 12 Iraniens. Les 12, ils sont sortis. Et on a vu une photo par rapport à la manifestation de ces 12 Iraniens.
Mm.
C'est émouvant, ça.
Mm-hmm.
Où qu'on est, même si on est 10, même si on est 11, on sort et on donne notre confiance à Reza Pahlavi. Parce que ce jour-là, ceux qui sont sortis, c'est les gens qui ont donné leur vote de confiance à Reza Pahlavi.
Oui, ça c'était
pour
clair.
Faire
c'était très
la,
clair. Ouais.
La passation.
Mm-hmm.
Et on est la voix des jeunes en Iran.
Mm-hmm.
Bien entendu, il y a qui ne sont pas d'accord, mais pour le moment, seul ce qu'on leur demande, est-ce que vous avez une autre solution à nous proposer à ce moment-là? Ça fait 3 jours que toutes les facs d'Iran, les enfants, les étudiants, ils sont dans la rue et on les a emprisonnés. Il y en a certains qui ont été emprisonnés, d'autres, ils peuvent plus accéder à leurs cours. Ça fait 3 jours qu'il y a encore des manifestations parmi les jeunes universitaires.
Ce qui prouve que le combat ne cesse pas et que la révolution continue.
Ça ne va pas cesser. Mmh. Les jeunes en Iran, dans leur slogan, ils le disent avec les États-Unis. Parce que bon, M. Trump, il a donné ses paroles. Il n'a pas tenu les paroles. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ils ont dit avec États-Unis ou sans États-Unis, on finit cette fois-ci avec République islamique meurtrier d'Iran.
Michel, tu avais envie de dire quelque chose, toi, par rapport à tout
non,
ça?
Non, non. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que, bon, vous avez soutenu le fils de
Reza Pahlavi,
oui.
Voilà. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres éléments de regroupement de la population?
Alors, en Iran, oui, il y a ça. Et les alternatives parmi les gens qui sont à l'étranger, vous voulez dire, ou les diasporas iraniens?
Non, ceux qui sont sur place.
Alors, sur place, il y a des combattants, bien entendu, mais ils ne sont pas connus internationalement parlant. Et ce sont majoritaires, d'autant, ils sont tous en prison.
C'est ça le problème.
Mais c'est ça le problème. Que comment voulez-vous qu'eux, ils interviennent auprès des États à l'étranger? Alors, après, peut-être vous parlez des Moudjahidines, c'est les groupes qui sont complètement en dehors du désir du monde des Iraniens.
Ouais.
Qui ne sont pas il y a ce groupe Moudjahidine, c'est le groupe où ils sont armés aussi, on se demande comment ils ont autant d'argent. Pendant la guerre l'Iran-l'Irak, ils se sont mis à côté les Irakiens, ils sont carrément, ils ont pris la défense d'Irak et ils ont bombardé les Iraniens à la frontière. Je suis une fille de Ahvaz, c'est la ville frontière, je l'ai vécu 8 ans de guerre en Iran.
Ouais.
C'est dans ma ville en direct qui était ça. Si je vous le dis, parce que j'ai vécu avec les soldats, j'ai vécu avec la situation de guerre et je sais de quoi je vous parle. Alors, lui, bien entendu, il se présente en tant qu'alternatif. Mais ils ne sont pas du tout aimés en Iran, ni diaspora iranienne, ni leur venue là. Ils ont qu'une groupe et c'est eux qui sont entre eux. mais il n'y en a pas de, supporteurs pour eux.
Oui, alors, dans les manifestations, on n'a rien vu d'ailleurs.
De ça, bon, de toute façon, ils savent, ils n'y vont pas, ils font leurs manifestations à eux, et c'est tout. Et tout est payé. Nous, on paye tous avec notre denrée. On paye l'avion, on paye bus, on paye tout ce qu'on peut, on fait, mais avec nos sous à nous. Et là, eux, ils sont nourris, logés et déplacements. Tout est gratuit pour ce groupe. Et où ils mettent une manifestation, de partout, ils réunissent tout le monde et ils se manifestent dans le monde entier. Quelqu'un m'a dit d'où ils subventionnent ça. Parce que moi, pour avoir un bus de 50 personnes pour qu'ils partent à Munich, j'ai mis une cagnotte, j'ai fait appel à donneurs iraniens et j'ai eu du mal. Mais bon, on a pu envoyer parce qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à trouver un job ici. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous êtes restaurateur, si vous avez des jobs à présenter à nos jeunes, la famille, ils ont du mal à envoyer l'argent. Les jeunes, ils ont du mal à payer leur inscription à la fac. S'il vous plaît, lancez votre aide envers ces jeunes-là, parce qu'ils en ont besoin. Ils sont travailleurs, ils sont intelligents, ils sont tous dans le niveau master do, doctorat. Alors, aidez-nous un petit peu. Vous pouvez faire ça pour nous. Si vous ne pouvez pas faire autre chose, que je comprends bien, vous pouvez faire ça, entre autres, que vous pouvez envoyer des mails à vos députés et vous leur demandez, qu'ils demandent à M. Macron qu'il se bouge. Qu'il se bouge, alors, s'il vous plaît.
C'est vrai que le débat est passionné, passionnel, et vraiment, hein, Michel, c'est vraiment, et bon, Mitra, c'est vraiment une guerrière, une combattante. Je propose, Mitra, qu'on fasse une petite pause musicale, ça va un peu, et on va pouvoir reprendre d'eau plus belle. Et tu nous présentes le morceau que tu as choisi, s'il te plaît.
Oui, c'est une symphonie Khorramshahr. Khorramshahr, c'est la ville dans le sud d'Iran, à côté de ma ville. C'est la ville qui a été attaquée par l'Irak, parce qu'ils sont 200, non, même pas. Et c'est une rivière qui sépare la frontière. Et c'était la première ville qui a été attaquée pendant la guerre, l'Iran, l'Irak. J'y tiens beaucoup à ma région et à ça. Et là, Khorramshahr, c'est une symphonie qui vient de sortir, mais c'est une symphonie guerrière et pour la révolution qui a été faite.
Voilà. À tout à l'heure. On prend souffle. We'll be right back. Eh bien, nous revoilà dans le studio accueillant de Radio FM+, hein, et nous venons de faire un peu la révolution, en tout cas en musique déjà, c'était magnifique, hein, Mitra, la révolution en Iran et en supportant les Iraniens autant que faire se peut. Je suis toujours en compagnie de Michel Collomb, mon coéquipier, et de Mitra Jalil Valenzuela qui nous parle avec sa passion, sa flamme passionnelle de la situation de son pays, qui nous a beaucoup éclairé sur ce qui se passe et sur cette espèce de consensus qui est en train de se faire. Enfin, moi, je sais que j'y assiste de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur aussi, et en tant qu'en plus française anti-royaliste au départ, je constate, elle nous a expliqué un petit peu le consensus qui est en train de se faire autour de la personnalité de Reza Pahlavi, qui est le fils du Shah qui avait été chassé, mais lui il avait 17 ans à l'époque, et qui serait une alternative qui semblerait la meilleure pour essayer d'organiser une fois que les mollahs seront partis. N'est-ce pas? en plus, Mitra, tu nous as bien expliqué tout à l'heure, et tu l'avais dit l'autre jour à la conférence, c'était intéressant, c'est que tu étais une révolutionnaire, toi aussi, à l'époque du Shah, et qu'en fait, la révolution, vous pensiez qu'elle avait réussi, sauf que ce qui s'est passé, c'est que Giscard d'Estaing, aidé des États-Unis, vous a renvoyé Khomeini, qu'on avait accueilli à l'époque, la France avait accueilli, parce que ce pauvre religieux, il fallait quand même faire quelque chose. Et on vous l'a renvoyé, on vous a envoyé comme un cadeau, quoi, au départ.
Un cadeau empoisonné.
D'accord, cadeau empoisonné.
J'y tiens à son mot,
voilà.
Parce que c'est un cadeau empoisonné.
Alors, moi, je vais te redonner la parole, Mitra, mais justement, je voulais faire par rapport à cette. Parce qu'il y a beaucoup de réactions quand je viens à vos petites cérémonies, là, le soir, et je vous invite à y aller, c'est sur la place de la Comédie, hein, en face de Gaumont, de 17h à 19h, vous verrez, il y a des photos chaque fois de tous ces gens qui ont été assassinés avec des petites bougies, il y a des petits slogans, enfin voilà, c'est si on veut être manifesté ou si on a l'occasion d'y aller. Et justement, j'entends souvent des réflexions concernant des Français disant voilà, mais pourquoi le Shah, il est parti, on l'a chassé, etc. Et je dois dire qu'il y a quand même quelque chose que je trouvais extraordinaire, c'est le retour de votre drapeau. Du drapeau de l'Iran, hein, on va pas dire la Perse parce que même c'est 4000 ans d'histoire, hein, la Perse, hein, du drapeau d'Iran avec ce lion qui incarne la force, le soleil, etc. Et justement, en voyant les vidéos qui sont faites des manifestations, entre autres des étudiants, on voit bien que même les étudiants, alors c'est évidemment, après, comme tu disais tout à l'heure, il y a diverses tendances, hein, mais même eux revendiquent, c'est votre histoire à vous, ce drapeau. Exactement. Qui vous a été confisqué par le régime.
Et ils l'ont mis en Allah à sa place.
Voilà, donc voilà, je te relaisse la parole, Mitra.
Ce que je demande de peuple et ce que je demande de peuple, c'est de nous comprendre. Certains moments, j'ai l'impression qu'on est jugé parce qu'ils nous disent pourquoi vous demandez l'intervention d'une armée extérieure. Sachez qu'on n'a pas autre choix. On n'a pas l'autre choix pour contrer ce régime et pour le mettre dehors de notre territoire. On n'a pas autre choix. Essayez de comprendre les mères qui ont perdu leurs enfants. Oui. Essayez de comprendre les gens qui se trouvent devant un champ des sachets noirs, qui devraient ouvrir un par un chaque sac noir et de voir est-ce que leur enfant elle est dedans ou non.
Est-ce que c'est le cadavre?
C'est les cadavres des jeunes. Ils sont dans les sacs noirs, dans les champs qui sont livrés à eux-mêmes et qui leur demandent aux parents, ouvrez un par un et regardez est-ce que votre enfant est dedans. Imaginez-vous que vous devriez faire ça. Imaginez seulement. La mère qui trouve, ou le père qui trouve son enfant. Un père, il était folle, il était fou. Il était parmi les sachets, il appelait ses pères, papa, Kojoy. Ses pères, papa, nous on dit parce que c'est le papa qui l'appelait son fils. Il a dit, ses pères, tu es où? Tu es où? Et il cherchait son fils, mais il était tellement perturbé par tous ces sacs noirs pleins de cadavres. Et imaginez-vous, une fois qu'ils l'ont trouvé, on leur demande de payer pour récupérer le cadavre, et pour le cadavre, et pour le nombre de balles que l'enfant a dans son corps. Mettez-vous à la place de cette père ou cette mère, comment ce père et cette mère, comment vous alliez réagir, vous? Si c'était vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si je me rappelle bien, c'est les Américains qui sont venus vous sauver. À cette époque-là, vous vous souciez pas qu'ils sont impérialistes. Ben nous, pareil, on se soucie. Il y en a qui viennent me dire, mais ça, c'est l'impérialiste. Oui, mais qu'est-ce que vous nous proposez comme autre choix, comme autre solution? Et ce que je demande aussi à mes compatriotes, si je peux me permettre, s'il vous plaît, l'ennemi aujourd'hui, c'est République islamique. Et comme on dit, on a une expression chez nous, on n'a pas tué l'ours. Alors arrêtez de marchander sa peau. Il faudra qu'on le tue, on puisse enlever la peau et après on va voir qui c'est qui va vendre la peau. S'il vous plaît, soyons un peu plus ensemble. Soyons en tout cas, à ce moment-là, précis, le peuple iranien a besoin de nous. Bien entendu, s'il y a une intervention militaire, il y aura des dégâts collatéraux. Ça, je le collatéraux, il faut que je dise. Il y aura des morts, il y aura sûrement. Mais bon, pensez, depuis 28 décembre, il paraît qu'il y en a entre 80 000 et 100 000 tués. Alors, je ne sais pas. Plus que ça, je ne sais pas. On est vraiment au fond d'un puits très, très profond. Et je ne vois pas autre solution il y a, que ça. Alors, soyons un petit peu ensemble, unis contre ce gouvernement meurtrier.
Alors, c'est la fin bientôt. Tu pourrais nous dire un petit mot, Michel, toi?
Eh bien,
je vois, ta mine, que tu es quand même touché, toi aussi. Hein?
Bien sûr, bien sûr. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, en Europe? Et en particulier, est-ce qu'on a supprimé les barrages qu'on a imposés aux importations, aux exportations de l'Iran?
Alors, les barrages, ils ne sont pas supprimés, c'est certes. Déjà, de mettre les pastarans en tant qu'organisme terroriste, normalement, on ne devrait plus faire les commerces avec eux. Et quand je ne sais pas si vous le savez ou non, c'est les pastarans qui tiennent la direction de toute économie en Iran, que ça soit voirie, que ça soit la construction, que ça soit les barrages, construction des barrages, toute infrastructure, et que ça soit la communication, tout ça, c'est géré par les pastarans. Alors, de ne pas faire le commerce avec l'Iran, c'est très bien, et surtout d'insister auprès des États-Unis pour cette intervention et pour libérer l'Iran de ce gouvernement maudit.
Et là, c'est une Iranienne qui vous le dit.
Ah oui, ça, c'est vraiment, ça fait pas du tout plaisir de voir. On ne demande pas l'ingérence. On ne demande pas des États-Unis de venir après régner ou quoi que ce soit. De toute façon, la culture iranienne ne permettra pas. Les gens en Iran sont très, très bien instruits et ils savent très, très bien de quoi ils parlent. Ils vous font des analyses politiques du monde entier. Vous n'allez pas y revenir. Les étudiants, je vous parle. Ils connaissent très bien les situations. Il faudra qu'ils aient les moyens pour faire sortir ces maudites républiques islamiques d'Iran.
D'accord. Donc, on va faire un vœu. Que finalement nos pensées, nos prières soient favorables et que nos amis iraniens sachent qu'ils ne sont pas quand même tout seuls, même si nos gouvernements ne sont pas aussi actifs que ce qu'on le voudrait, loin de là. Voilà, bon, moi tu sais, tu connais mon attachement à ton pays en plus, donc vraiment que ça marche vraiment bien. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin, toi, Mitra?
Vive l'Iran.
Oui, voilà, vive l'Iran.
Vive les Iraniens.
Oui, vive les Iraniens.
On y arrivera. Et je suis fière, très fière de mon peuple. Jamais, jamais on a vu dans le monde une peuple, la main vide, résiste autant et qui aille jusqu'au bout de sa volonté. Je suis très fière d'eux. Je suis ravie d'être iranienne en étant d'être française aussi. J'ai double nationalité et je suis ravie.
D'accord. Donc, on va y arriver et je souhaite que ça arrive bientôt et je souhaite aux gens qui n'ont pas le bonheur, le plaisir de connaître ce pays, de pouvoir y retourner en toute, en toute paix, parce que ça se refaisait, il y avait un peu du tourisme qui repartait, évidemment, avec tout ça. C'est un très, très beau pays. Je vous invite tous. Je remercie Mitra pour son témoignage.
Merci à vous.
Michel pour sa conclusion. On sent qu'il est vraiment avec nous. Voilà. Et puis Yann, pour sa patience et son accompagnement de cette cause-là. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.